Bay et Fanny Ardant, comédienne, Mathieu Blanchard, deuxième assistant réalisateur, Jacques Kometz, chef monteur, et Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.
C'était le dernier épisode de nos passeurs de réel. Vous pouvez réécouter le documentaire d'Antoine Guillot sur notre site. Vous pouvez aussi l'y commenter et voir les annonces concernant le programme de la semaine prochaine. En contrepoint des élections européennes, nous irons en Roumanie, mais nous serons aussi toujours en contrepoint du Festival de Cannes, puisqu'un des épisodes sera consacré à ce qu'on nomme la nouvelle vague du cinéma roumain, la Palme d'Or. En 2007, c'était un film roumain. Il est 17h. Vous écoutez France Culture, il faut le dire et le redire. Et maintenant, voici les nouveaux chemins de la connaissance. Raphaël Antoven, bonsoir.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite et fin déjà d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, puisqu'après Camus, Ionesco, Vian et Beckett, c'est du procès de Kafka, qui d'autre, que nous parlerons ce soir en compagnie de Jean-Pierre Morel, à qui l'on doit, notamment, un indispensable commentaire du procès dans la non moins indispensable collection Foliothèque chez Gallimard.
Number nine.
Je deviens de plus en plus incapable de penser, d'observer, de faire des constatations, de me souvenir, de parler, de prendre part à la vie des autres. Je me pétrifie. Cette constatation-là, je suis bien obligé de la faire. Mon incapacité augmente même au bureau. Si je ne me réfugie pas dans le travail, je suis perdu. La conscience que j'en ai est-elle aussi claire que la chose elle-même? Si je me cache, si je fuis les gens, ce n'est pas pour vivre en paix, c'est pour m'anéantir en paix. Bonjour Jean-Pierre Morel.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Le texte que je viens de lire est extrait du journal de Kafka en date du 28 juillet 1914, soit quelques jours avant d'entamer la rédaction du procès, ou avant que la rédaction du procès ne l'entame, hein, c'est selon. C'est le portrait d'un homme qui se pétrifie, que les questions désertent au sens propre, qui se vit lui-même comme un désert de questions, mais qui persévère dans le travail comme d'autres persévèrent dans l'existence, un homme dont le travail ressemble en somme à l'unique vacance. Et ce chaos mental dit peut-être, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, l'atmosphère du procès dont le non-sens se déploie sur le fond relativement homogène et juridique d'arrestation, de procédure. Hier, en parlant de Beckett, Bruno Clément vantait les mérites d'une mise en scène de fin de partie à l'intérieur d'un crâne. Est-ce qu'on peut en dire autant du procès? Et si on était tout simplement dans le procès, à l'intérieur du crâne de Kafka?
Alors c'est une métaphore très riche qui ouvre indéniablement plusieurs pistes. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le déploiement même temporel du procès se situe entre l'arrestation de Joseph K., qui a lieu le jour de son 30e anniversaire,
et son assassinat
qui a lieu ou son exécution judiciaire, et qui ont lieu la veille de son 31e anniversaire. Et puisque vous rappeliez tout à l'heure la date de juillet 1914, si l'on pense à la biographie de Kafka, il aurait, d'une certaine manière, fait se dérouler le procès dans une période de sa vie précise, entre l'été 1913 et l'été 1914. C'est assez intéressant d'ailleurs historiquement de constater que de façon symbolique, l'exécution de Joseph K. aurait lieu juste symboliquement à la veille de la guerre de 1914. Maintenant, pour avancer un peu sous la voûte crânienne, on pourrait dire que toute une partie du procès offre indéniablement au lecteur instruit, notamment de la lecture contemporaine du journal, des raccords constants avec la vie de Kafka, sa situation professionnelle, Joseph K., on dit trop souvent dans la critique que c'est un petit employé de banque. Pas du tout.
Oui, il faut remettre les choses en place, hein, pour les auditeurs qui n'ont pas en mémoire la totalité du procès. Hein. Donc, Joseph K. travaille dans une banque.
Il travaille dans une banque, mais il est le premier fondé de pouvoir de cette banque, comme il le dit, et en passe de devenir non seulement un cadre supérieur, mais peut-être le successeur du directeur de la banque.
Oui, parce que le directeur l'a à la bonne, comme on dit.
Oui, hein, il l'invite... ça correspond en gros à la situation que Kafka s'était faite lui-même à la Société d'assurance générale à Prague où il travaillait, où il avait atteint assez vite un niveau professionnel considérable et où il était très bien considéré par ses supérieurs. Donc, c'est pas tout à fait anecdotique le statut professionnel de ce personnage qui nous est répété d'ailleurs du début à la fin et dont il est très fier. Fier notamment de son grand bureau, fier de ses téléphones, fier de ses relations, fier de son statut social, de son standing, pourrait-on dire. Et puis, alors il y a évidemment par ailleurs tout ce qui travaille Kafka à cette époque-là. Les relations avec sa famille, il faut se rappeler qu'il vit toujours et il va vivre encore un certain nombre d'années bien que fils aîné, célibataire, il va continuer de vivre avec ses parents, dans l'appartement de ses parents, avec des problèmes d'espace, on pourrait dire, et de promiscuité qui lui sont de plus en plus difficiles. D'autant plus que depuis l'automne de 1912, il a fait connaissance d'une jeune berlinoise avec laquelle il entretient une correspondance épistolaire et amoureuse extrêmement importante, avec laquelle il fait des projets de fiançailles. Les choses vont devenir de plus en plus compliquées.
Celle qu'il nomme F dans son journal.
F. Qui est
Felice.
C'est-à-dire Felice Bauer, dont on a connu l'identité plus tard et dont on a découvert relativement tardivement, en France du moins, la correspondance qu'il avait entretenue avec elle. Et puis, il y a le problème de la littérature, qui est une façon pour lui de se créer une nouvelle appartenance, mais cette appartenance est problématique dans la mesure où elle l'entraînerait à rompre ses liens avec sa famille, avec ses amis, peut-être avec Prague, et aussi peut-être avec la jeune femme dont il était pris, et à laquelle il essaie de faire mesurer en même temps son attirance, son degré d'attirance pour la littérature, en lui montrant d'une façon assez terrible que sa vocation littéraire, si on peut parler ainsi, est incompatible avec le bonheur terrestre, et notamment avec le bonheur conjugal.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment chez Kafka que la vocation littéraire s'accompagne chez lui ou à l'intérieur de lui-même, sans faire de la psychologie de comptoir, mais quand même, à l'intérieur de lui-même, d'un désert de questions. C'est le moment où on a l'impression qu'il, plus il vit machinalement, plus il est dans l'état propice à la rédaction d'un ouvrage aussi monumental que Le Procès. Comment expliquer cette espèce de cette dissymétrie entre la profusion, l'exubérance de son travail et la vacuité intérieure dont son journal témoigne au même moment?
Ça, c'est une question difficile.
Mais je sais à qui j'ai affaire, vous vous attendiez pas à
une
question facile.
D'une part, il y a effectivement une activité sans trêve de sa part, une activité nocturne intense, des centaines de pages noircies et qu'il va d'ailleurs, dans le cas du procès, abandonner. C'est le deuxième roman qu'il va abandonner en cours de route. Ça se voit un peu moins parce que il avait pris la précaution de rédiger le dénouement, ce qu'il n'a pas fait pour les deux autres romans. Donc il est un peu moins inachevé apparemment que les autres. Et en même temps, cette activité s'accompagne d'une réflexion extrêmement complexe, extrêmement cruelle, sur les différentes impasses de sa vie. Il est à la fois, et ça c'est peut-être un paradoxe central, il se sent n'être, dit-il, n'être que littérature, je ne suis que littérature, je ne suis pas autre chose, et en même temps, la capacité chez lui, la possibilité chez lui de coïncider avec cet être littéraire, il ne la trouve pas. Il ne la trouve jamais. Et on pourrait se dire que d'une certaine manière, si les conditions lui avaient été données d'accomplir pleinement cette mission littéraire dont il se sentait investi, il n'y serait pas parvenu. Il cherche désespérément le lieu, la place, où il pourrait exercer, par exemple, une cave, la nuit, où il serait coupé de tout le monde. Mais ce ne sont là que des métaphores. Il n'y a pas ce site. Il ne peut pas le trouver. Et donc, il va le déployer à travers un certain nombre de figures.
Est-ce que vous feriez, pardonnez-moi, vous feriez de tous ces livres aporétiques de Kafka, je ne sais pas, il faudra expliquer ce lapsus. Vous feriez de tous ces livres aporétiques de Kafka, tous ces livres en impasse de Kafka, en tout cas le sentiment de l'impasse qui découle en permanence de son écriture, une métaphore, entre autres, du sentiment qui est le sien de ne jamais parvenir à donner sa chance à la vocation littéraire qu'il habite tout entier ?
Je crois que d'une certaine manière, c'est depuis le premier grand récit, le verdict, c'est cette question qui est sans cesse remise sur le métier. Alors on sait que la dernière partie de son œuvre...
C'est intéressant que le verdict précède le procès quand même.
Oui, à cause notamment du choc frontal avec le père. Mais
il faut revenir là-dessus hein, pour l'auditeur.
Le choc frontal avec le père, c'est l'histoire d'un jeune négociant, encore un homme d'affaires à succès, qui est en train d'écrire une lettre à son ami à Saint-Pétersbourg, dans laquelle il annonce ses prochaines fiançailles avec la jeune femme de sa vie. Le père, veuf, âgé, s'est retiré dans une pièce de la maison et a cédé la responsabilité de l'affaire à son fils. Le fils, après avoir terminé cette lettre à son ami, se rend au chevet de son père pour prendre de ses nouvelles. Lui parle de la lettre qu'il est en train d'écrire. Et d'un seul coup, le lecteur se sent pris dans une série de renversements absolument inattendus. Le père commence par lui demander s'il a vraiment cet ami à Pétersbourg. Il lui dit ensuite qu'il a contracté, lui, son père, pendant toutes les années où le fils l'a négligé, une alliance avec cet ami de Pétersbourg, notamment contre ce projet de mariage dont le père semble estimer maintenant qu'il n'est le fruit que de la lubricité de son fils. Et finalement, dans un mouvement d'omnipotence impétueuse, il se dresse au-dessus de son lit et condamne son fils à la noyade. Et le lecteur interloqué, qui en arrive à la 10e ou 12e page du récit, voit ce jeune homme aller
exécuter de lui-même la sentence,
se précipiter par-dessus la barrière du pont en disant « Chers parents, pourtant je vous aimais ». C'est le. Alors, on a là quelque chose d'une aporie fondamentale propre à Kafka. Le père. Ce pourrait être, en somme, celui qui barre la jouissance sexuelle. Et une fois libéré du père, on pourrait l'accomplir. Eh bien, pas du tout. Il ne va pas jusqu'au bout. Quelque chose en empêche, quelque chose le freine, et quelque chose le fait céder à une sorte d'obéissance mortifère pour le père. Et d'une certaine manière pour la littérature, je dis d'une certaine manière, parce qu'il ne faudrait pas plaquer toutes les choses les unes sur les autres, mais d'une certaine manière, il va être, par tous les moyens, il va chercher cet espace de liberté littéraire, et en même temps, on peut dire qu'il va se mettre toutes sortes d'entraves.
C'est Moïse, Kafka, hein, il s'arrête toujours au seuil.
Oui, c'est un des mythes bibliques auxquels il a beaucoup pensé dans la période où il écrivait Le Château, c'est-à-dire en 1922, au moment où il avait commencé à partir de 1917, non pas des études de théologie, mais des sortes d'une série de méditations sur de grandes figures de la Bible, comme Abraham et comme Moïse.
Jean-Pierre Morel, il faut quand même qu'on revienne sur le texte lui-même, parce que le paradoxe du procès, là encore, c'est que voilà un homme qui est arrêté, qui, tout en étant arrêté, n'est pas vraiment arrêté, puisqu'il peut continuer son activité pendant le déroulement de ce procès dont on ne connaît jamais la cause. Je voudrais qu'on parte du premier chapitre, l'arrestation de Joseph K., c'est-à-dire le personnage principal. Dans l'arrestation de Joseph K., au cours d'une conversation, je crois, avec sa logeuse, c'est Madame Grubach, elle dit ceci, elle dit « Je sais bien que vous êtes arrêté, mais ce n'est pas comme on arrête les voleurs. Quand on est arrêté comme un voleur, c'est grave, tandis que votre arrestation, elle me fait l'impression de quelque chose de savant. » Excusez-moi si je dis des bêtises, elle me fait l'impression de quelque chose de savant que je ne comprends pas, c'est vrai, mais qu'on n'est pas non plus obligé de comprendre. Réponse de K, ce n'est pas bête du tout ce que vous dites là. Je suis du moins de votre avis en grande partie, mais je vais plus loin que vous. Ce n'est pas seulement quelque chose de savant, c'est un néant ridicule. Et c'est à partir de ce néant ridicule que commencent les péripéties de Joseph K, qui un an plus tard le mène à sa mort, à une mort d'ailleurs qu'il ne conteste pas, qu'il finit par accepter avant même qu'elle survienne. Jean-Pierre Morel.
Là, il y a deux choses qu'on pourrait dire. Premièrement, cette parole de Madame Grubach, la logeuse, dans sa simplicité, est tout de même prémonitoire. Parce que le quelque chose de savant, etwas Gelehrtes, va se retrouver notamment dans la scène avec l'aumônier des prisons, la scène de la cathédrale, qui va déployer une interprétation possible, extrêmement savante, et de dimension religieuse de ce qui arrive à Joseph K. D'autre part, Joseph K lui-même dans sa réponse est dans la dénégation totale. Dès le début, il va à la fois se montrer préoccupé par cette affaire et en même temps, il va dénier qu'elle ait quelque importance, quelques conséquences pour sa vie, et il va se promettre de s'en débarrasser, de s'en défaire très vite. Mais ce n'est qu'une attitude provisoire. Alors, ça laisse ouvert entre les deux, le quelque chose de savant et le quelque chose de rien du tout, l'espace de déploiement de cette institution judiciaire, qui est tout de même pour le lecteur de jadis et pour le lecteur d'aujourd'hui, quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Oui, parce qu'on est entre la vacuité et l'assassinat, oui. Et entre les deux, il y a une certaine forme de logique qui n'a plus de fondement.
Oui, on a une institution judiciaire, car elle paraît être une institution judiciaire, qui est en même temps déléguée, non pas à un personnel spécialisé, mais à une sorte de bande de bras cassés, visiblement incompétents et corrompus, et en même temps que c'est une institution qu'on pourrait dire une justice sous-traitée, c'est en même temps très curieusement une justice délocalisée, parce que les interrogatoires vont avoir lieu, les premiers interrogatoires de K vont avoir lieu dans un immeuble de rapport d'un quartier populaire, et même dans l'appartement d'un huissier qui sert dans la semaine à la vie de l'huissier, sa femme et son enfant, et d'autre part de temps à autre, et notamment le dimanche, aux séances publiques d'interrogatoire. Et tout au long du roman, on sera devant cet univers extrêmement déconcertant, d'un mélange d'incompétence, de corruption et d'implantation de la justice dans des lieux tout à fait inattendus, avec pour aggraver les choses, le fait que finalement, ce tribunal est partout, et que d'une certaine façon, toutes sortes de gens y participent, dont on n'attendrait pas qu'ils soient liés à une machine judiciaire, par exemple un peintre, un artiste peintre, et par exemple l'aumônier dans la cathédrale.
Enfin, oui.
Tout le monde fait partie du tribunal, y compris les petites filles vicieuses qui jouent dans l'escalier du peintre.
Dans l'escalier du peintre Titorelli. Hein. Alors on va parler, Jean-Pierre Morel, avec vous, de ce peintre, justement, Titorelli. On va parler également de cet univers étrange fait de corruption, de violence, de policiers qui se font fouetter. Enfin, un univers dont les formes sont rationnelles et dont l'ensemble, ou dont la forme globale, elle, est totalement délirante, paranoïaque, invraisemblable, et d'autant plus d'ailleurs que les formes en un sens y sont respectées, notamment la politesse par exemple. Il y a toujours une courtoisie très présente dans le procès. Mais je vous propose de bondir, Jean-Pierre Morel, non pas à la toute fin du procès, mais au chapitre d'avant, le chapitre que vous avez mentionné, où il est question de cet aumônier, le chapitre intitulé « À la cathédrale », dans lequel, alors le prétexte, hein, c'est que Joseph K est chargé d'accompagner un client italien, jusqu'à la cathédrale de la ville, et alors qu'il attend l'arrivée de ce dernier, à l'intérieur, un prêtre l'interpelle par son nom, alors que K ne s'est jamais rendu là auparavant, et le prêtre lui raconte une fable censée expliquer sa situation. Et alors, ce qui est intéressant, ce sont les commentaires, la complexité évidemment des commentaires du prêtre, le sens à donner à cette fable, qu'on a ensuite baptisé la parabole de la loi, et que Jean-Louis Jacopin nous lit tout de suite.
L'homme, qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions, emploie tout, si précieux que ce soit, pour soudoyer la sentinelle. Et la sentinelle prend bien tout, mais en disant « Je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose. » Pendant ces longues années d'attente, l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle. Il en oublie les autres gardiens. Il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi. Et il maudit bruyamment la cruauté du hasard pendant les premières années. Plus tard, en devenant vieux, il ne fait plus que grommeler. Il retombe en enfance et, comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle, il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Il prie les puces elles-mêmes de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue s'affaiblit et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui ou s'il est trompé par ses yeux. Mais maintenant, il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille inextinguiblement à travers les portes de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée à la sentinelle. Et, ne pouvant redresser son corps raidi, il fait signe au gardien de venir. Le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui, car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée. « Que veux-tu donc encore savoir ?» demande-t-il. « Tu es insatiable. » « Si tout le monde cherche à connaître la loi, dit l'homme, comment se fait-il que depuis si longtemps, personne que moi ne t'ait demandé d'entrer ?» Le gardien voit que l'homme est sur sa faim et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille « Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. » « Maintenant, je pars et je ferme la porte. »
Voilà donc interprété magnifiquement par Jean-Louis Jacopin, ce passage hein, devant la loi, ce passage à la cathédrale, passage dont j'ai appris d'ailleurs en lisant votre livre sur Kafka, Jean-Pierre Morel, qu'il était le seul passage du procès publié du vivant de Kafka. C'est le récit que le prêtre fait à Joseph K. Il donne la parole à cette sentinelle qui se trouve devant cette porte où s'épuise un homme qui attend là toute sa vie avant de découvrir que la porte non seulement n'était faite que pour lui, mais qu'en plus elle ne s'ouvrira pas. J'allais vous demander quel sens donner à cela, c'est trop ambitieux. Quelles interprétations peut-on donner d'un tel texte, Jean-Pierre Morel ?
D'abord, la constatation que la constatation vous faites, c'est que si Max Brod avait respecté le testament de Kafka, qui voulait qu'on brûle tous son ami, inédits, oui. Qui voulait qu'on brûle tous les inédits, nous n'aurions du procès que la page qui vient d'être lue et de résonner à nos oreilles. Alors, une première chose qu'on peut dire, c'est que le tribunal qui fait arrêter, qui inculpe et qui fait finalement exécuter Joseph K. Est censé faire respecter une loi que nous ne connaîtrons jamais. Nous sommes pourtant dans un état de droit, Joseph K. y pense dès son arrestation, mais la loi telle qu'elle existe, la loi écrite, votée telle qu'elle existe dans un état de droit, on ne la connaît pas. Ce qu'on a, c'est d'un côté, dans une scène antérieure, des livres posés sur la table du juge, et qui sont d'ailleurs des livres accompagnés finalement, non pas des codes de loi comme le pensait Joseph K., des livres licencieux accompagnés de gravures cochonnes. Et à l'autre extrémité, on a cette scène extraordinaire de la loi, où l'aumônier lui lit une glose préliminaire à la loi, ce qui est encore une manière de reculer la loi et de la rendre inaccessible. À partir de là, on peut faire l'observation d'un certain nombre de commentateurs très savants que non seulement le récit, mais surtout la manière de discuter qui va suivre entre K et l'aumônier des prisons, nous sommes dans un contexte catholique, est en fait une manière de renvoyer à une pratique, et notamment une pratique rabbinique, de commentaires et de discussion sur certains passages de la loi juive.
Ça, c'est le commentaire de Benjamin. Alors,
ça, c'est le commentaire de Benjamin, mais qui a été repris et très bien éclairci, par exemple, par Stéphane Moses, de façon magistrale, dans un des derniers livres de lui, qui est
dans L'Ange de la Rédemption.
En France, après L'Ange de la Rédemption, c'est un petit livre dont j'ai oublié malheureusement le titre, mais qui est très riche sur cette parabole.
Alors, profitons de cette parenthèse pour rendre hommage au regretté Stéphane Moses, dont l'œuvre est majeure et considérable. Je renvoie notamment à L'Ange de la Rédemption. L'éditeur m'échappe là maintenant.
C'est le seuil, je crois.
C'est le seuil, voilà. Oui.
Alors, à partir de là, il faut dire encore deux choses. C'est que dans le contexte direct du procès, visiblement, ce récit fait par l'aumônier des prisons et l'interprétation qui en est donnée par l'aumônier des prisons est d'une certaine manière une façon de discipliner l'accusé K, qui est un peu indocile. C'est une façon de le remettre au pas, de lui faire comprendre la nécessité de ce qui lui arrive. Et à un moment, d'ailleurs, il proteste en disant « Mais est-ce que tout ça est vrai ?» L'aumônier lui répond en conclusion « Il n'est pas besoin que ce soit vrai. » Il est besoin que ce soit nécessaire.
C'est une nécessité qu'il doit, vous avez dit comprendre, mais est-ce que c'est plutôt une nécessité qu'il doit avaler sans la comprendre?
Qu'il doit avaler
L'enjeu
sans la comprendre.
Du procès, c'est de lui faire avaler quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre.
D'une certaine manière, oui, c'est cela. Alors maintenant, si on prend une autre partie de la vie et de l'œuvre de Kafka à partir de 1917, et le fait même que, comme vous l'avez rappelé, il est seulement autorisé ce court passage dans une revue pragoise. Cela indique qu'on est face à l'un des paradoxes existentiels auxquels il a le plus longuement réfléchi. D'une certaine manière, la condition humaine, c'est d'attendre indéfiniment et désespérément devant une porte qui n'était pourtant faite que pour vous et que vous ne franchirez pas. Il y a les deux. L'impossibilité de franchir et le fait que pourtant, c'était le seul accès qui vous était donné à la loi, à la transcendance, au bonheur. On peut supposer toutes sortes de choses. Ou à la possibilité d'écrire librement.
Les seuils qu'on ne franchit pas recèlent autant de trésors que notre frustration y dépose.
Oui.
Tous les trésors qui sont déposés par ce que nous ne parvenons pas à faire. Il y a de Kafka une interprétation, alors talmudique, interprétation de Benjamin, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Il peut y avoir une interprétation tout bêtement existentielle. Un homme peut-il s'emparer de son existence et faire ce qu'il se sent le devoir de faire ou ce qu'il se sent pouvoir faire? Une interprétation littéraire, un écrivain parviendra-t-il au terme de son œuvre ou bien est-il condamné à ne faire que des livres inachevés dont il souhaitera, avant de mourir, qu'ils disparaissent? Toutes ces interprétations de Kafka sont, j'allais dire, dans la loi, licites, légales, oui. On peut le dire comme ça.
Oui. Dans le procès tel que nous l'avons, heureusement, cette référence à la loi, ce récit de du gardien, fonctionne évidemment comme une manœuvre d'intimidation. Mais lorsque ça devient un apologue de deux pages, ça prend une toute autre valeur. Et quand Kafka médite à nouveau sur cela à partir de 1917 jusqu'en 1924, ça prend une autre résonance et une autre dimension.
On va parcourir le procès encore avec vous, hein, Jean-Pierre Morel, et on va le faire à rebours. On va aller au chapitre 7. L'avocat, l'industriel et le peintre dont vous avez parlé tout à l'heure, cet étrange peintre Titorelli, entouré de jeunes gamines lubriques qui lui tournent autour, qui hantent les escaliers et qui offre une autre version finalement de l'impuissance à trouver un sens à tout cela, en expliquant, en laissant planer la possibilité pour Joseph K. de se retrouver libre avant de lui faire comprendre que il ne sera jamais vraiment libre. On comprend que ce peintre étrange est en fait lui-même l'un des rouages, peut-être conscient d'ailleurs de cette grande mécanique qui ne dit ni son nom ni son sens. On va entendre tout de suite le peintre en question, donc Titorelli, dans le procès d'Orson Welles, le film de 62.
Alors voilà, dans le cas de l'acquittement apparent, j'établis un certificat attestant votre innocence et fais le tour de tous les juges que je connais personnellement, en commençant par celui dont je suis en train de faire le portrait. Mm-hmm. Je lui explique que vous êtes innocent et me porte garant de cette innocence.
Et il arrive qu'il vous croit ?
Ça arrive. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Certains ne peuvent faire autrement que de me croire.
Et après, je serai libre.
C'est-à-dire apparemment libre. Car voyez-vous, je connais seulement des juges subalternes qui n'ont pas le pouvoir, réservé à ceux de la haute cour, de prononcer l'acquittement définitif.
La haute cour, que savez-vous d'elle?
Sa mentir nous est inaccessible à tous. Ce qui peut se passer là-haut dans ce lupanard, nous n'en savons rien. Et nous ne voulons pas le savoir. Je suis sûr que vous me comprenez.
Je ne sais pas, je crains que non.
Tout ce que je peux obtenir de mes amis, c'est qu'ils vous soulagent du fardeau de l'accusation pour un temps indéterminé. Mais vous n'en serez pas débarrassé pour autant. Dans le cas de l'acquittement définitif, tous les documents sont détruits. Mais avec l'acquittement apparent, tout votre dossier continue à circuler. Il grimpe jusqu'à la haute cour, puis il redescend, remonte, redescend, et ces oscillations se font selon un itinéraire que vous ne pouvez prévoir.
Je ne vois pas l'intérêt de ce genre d'acquittement.
Moi non plus. J'ai même connu des cas où l'acquitté provisoire, revenant du tribunal, trouvait à sa porte des flics qui venaient de nouveau l'arrêter. Mais on conserve toujours, théoriquement, la possibilité d'obtenir un autre acquittement apparent.
Mais ce second acquittement n'est pas plus définitif.
Oh, il est automatiquement suivi d'une troisième arrestation et d'un troisième acquittement, lui-même suivi
etc.
d'une autre... Vous croyez que l'ajournement vous irait mieux, mon chou?
Eh bien, c'est difficile à dire.
Même dans ce cas, vous ne pouvez vous désintéresser de l'affaire. Des mesures doivent être prises. Questions, dépositions, observations, contre-dépositions, pièces à conviction. Oh, vous partez déjà?
Jean-Pierre Morel, c'est étonnant. On a l'impression, avec dans le procès, que on n'entre jamais là où il faut aller, comme dans le château d'ailleurs. Hein. C'est la même affaire finalement. On n'y entre jamais. On n'entre jamais, et pourtant constamment, on a l'impression qu'on n'en sort pas.
Oui, on a l'impression, comme dans le château, qu'il y a tout en haut une justice suprême, comme dans le château, il y aurait des bureaux tout en haut. Or, on ne voit jamais les personnages de Kafka ne voient jamais que la hiérarchie. À sa base, à ras de terre, et c'est un des grands traits d'humour de Kafka, d'avoir ici un personnage d'artiste-peintre qui est en même temps un auxiliaire de la justice, puisque son atelier fait partie des bureaux du greffe, du tribunal qui le lui concède. Et ce personnage est très particulier parce que c'est un peintre d'apparat. Il a pour fonction, qui semble bien être une fonction héréditaire, en tout cas il l'a hérité de son père, de pouvoir peindre des juges.
Il est peintre de père en fils.
Dans leur plus grand appareil. Et d'ailleurs, il traite les juges avec une familiarité tout à fait désinvolte. Il les rabaisse. Il les humilie. Et en même temps, grâce à ce commerce de père en fils avec la justice, il a acquis un savoir des voies par lesquelles un accusé peut s'en tirer.
De sorte qu'il est l'interprète de la justice.
Il est l'interprète de la justice.
Il en connaît les arcanes.
Bien entendu, il vend ses services puisqu'il va refiler une série de croûtes infâmes à son visiteur. Mais ça, c'est un petit peu plus loin. Et alors ici, il explique toute l'ironie du passage réside dans le fait que il y a d'abord l'acquittement réel. Mais l'acquittement réel, il n'en a jamais entendu parler. Et donc, l'acquittement réel, dit-il, c'est si vous êtes innocent. Mais si vous êtes innocent, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils.
Or, K n'est pas innocent puisqu'on lui fait un procès.
Mais on ne sait pas, effectivement, au nom de quoi, puisqu'il n'y aura jamais, jusqu'à l'exécution, il n'y aura jamais de chef d'accusation. Il ne saura jamais de quoi il est accusé.
En revanche, ce dont on est certain, c'est que comme il est accusé, il est coupable.
Il est coupable aux yeux de ce tribunal et finalement, par moment, il en arrive à se demander s'il ne l'est pas. Et puis, quand même, jusqu'à la fin, il proclame son innocence. Le seul problème qui le tourmente, c'est comment devrait-il vraiment prendre toute cette affaire au sérieux. Et ça, il ne trouve pas. Et alors, les deux autres voies qui sont proposées, qu'on vient d'entendre dans l'extrait du film, c'est l'acquittement apparent, mais qui consisterait à le remettre en liberté, mais à le faire tomber de chef sous une nouvelle inculpation, et ainsi de suite. Ou finalement, alors là, les traducteurs divergent, c'est soit l'atermoiement, soit le retardement, soit l'atermoiement illimité. C'est-à-dire, la façon dont le procès a commencé, et dont Joseph K, par inconscience et rébellion ou mauvaise tête, a voulu sortir. Au fond, ça consisterait, l'atermoiement illimité, à garder le procès dans son cercle le plus étroit, c'est-à-dire qu'il viendrait de temps en temps devant son juge subir de petits interrogatoires tranquilles, mais qui dureraient probablement toute sa vie, qui ne déboucherait sur rien. Et c'est parce qu'il a voulu rompre ce cercle dans lequel il était entré au tout début, certainement qu'il va être exécuté. Mais on ne sait pas, il y a une sorte de saut logique, en même temps chronologique, entre l'exécution et tout ce qui a précédé.
Cass aperçut alors qu'il n'avait cessé d'espérer depuis le début que le peintre allait se lever pour ouvrir d'un coup la fenêtre ou qu'il allait le faire lui-même. Il était prêt à respirer de tous ses poumons le pire brouillard. La sensation d'être complètement isolé de l'air dans cet endroit lui causait un vertige. La sensation d'étouffement physique corrobore le discours en circonvolution et en zigzag finalement de ce peintre médiocre, ce peintre d'apparat comme vous avez dit. Qui ne fait que l'enfermer davantage après avoir laissé miroiter la possibilité d'une échappatoire. Est-ce que, alors on a parlé tout à l'heure d'une interprétation talmudique du procès face à la porte de la loi. Est-ce qu'on ne peut pas également considérer qu'ici, après tout pourquoi pas, Kafka raille l'entreprise exégétique qui se noue autour du Talmud. Après tout pourquoi le peintre ne serait pas la figure de celui qui interprète à l'infini un texte dont il aurait oublié le sens à force de l'interpréter. Ce qui me donne cette idée, qui vaut ce qu'elle vaut, donnez-moi votre sentiment, c'est la présence des petites filles, c'est la présence surtout des cris d'enfants. Or, on sait bien que dans les maisons d'études, là où on étudie le Talmud, la conversation est presque un prérequis. Ça ne se fait pas dans le silence, ça se fait au milieu des cris d'enfants. On pourrait ici avoir l'image, peut-être, alors là pour le coup dégénérée, d'une interprétation devenue folle au milieu de cris d'enfants et d'un homme qui serait pris dans la nasse d'une interprétation sans issue parce qu'elle aurait oublié son origine. Qu'est-ce que ça vaut, ça, Jean-Pierre Morel ?
Non, on peut peut-être dire de répondre de deux façons à cette question complexe. La première, peut-être sur les petites filles vicieuses, c'est que le tribunal, ce n'est pas simplement la promiscuité, le délabrement, l'étouffement. C'est aussi le désir sexuel. Et ici, évidemment, ces petites filles lorgnent sur le peintre, en même temps sur le monsieur qui lui rend visite, qui est peut-être venu poser, dont elles épient les étapes du déshabillage. Il commence à se dénuder, mais parce que il fait très chaud. C'est la deuxième réponse à propos du Talmud. Je l'emprunterai à un travail qui va bientôt paraître de Frédéric Lechter. C'est que les discussions talmudiques, en principe, sont supposées avoir lieu dans une ambiance de rivalité autour du texte, mais de rivalité amicale, de rivalité fraternelle. Les mêmes discussions dans les romans de Kafka sont toujours prises dans des rapports de force, dans un jeu de pouvoir. Et donc, l'un et l'autre argumentent, le peintre ou bien l'aumônier des prisons, et de l'autre côté l'accusé, mais c'est pour qu'en fin de compte, non pas ils tombent d'accord, mais qu'il y en ait un qui cède le terrain à l'autre. Et donc là, il y a une retranscription sans doute très ingénieuse, très savante, très 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 empreinte d'une longue et vénérable culture, retranscrite dans un système d'affrontement et de rapport de force d'une institution qui veut faire céder l'individu.
Et qui veut faire céder l'individu, et tous les moyens sont bons.
Tous les moyens
ça
sont
va
bons.
De la présence des policiers qui ne répondent pas aux questions de l'éminent et respectable Joseph K, jusqu'à l'aumônier de la cathédrale qui lui raconte la fable de la loi, en passant par les tueurs, les policiers qui se feront eux-mêmes arrêter ensuite, ce premier interrogatoire qui se trouve, on remonte là encore le livre, qui se trouve au chapitre 3 du procès, dans lequel K est sommé donc de se rendre au tribunal sans qu'on lui précise d'ailleurs l'heure ni le lieu exact. Ce qui fait qu'il passe un temps fou à trouver l'endroit. Et il se retrouve devant une assemblée dont, bizarrement, la moitié droite lui est hostile et la moitié gauche lui est favorable. Il est emballé par cette possibilité d'un succès. Il sent la possibilité de retourner la foule. Et puis tout d'un coup, un couple s'agite au fond de la salle, attire l'attention de tout le monde. Et K comprend à cet instant qu'il est beaucoup moins intéressant que tout ce qui est de nature à distraire son public. C'est un passage tout à fait étonnant, et c'est Jean-Louis Jacopin qui nous le lit encore.
Un petit cercle s'était formé autour des acteurs de cette scène, et les gens de la galerie semblaient ravis de cette diversion au sérieux que K avait introduit dans l'assemblée. K, sous le coup de la première impression, voulut aller immédiatement rétablir l'ordre, pensant d'abord que tout le monde aurait à cœur de le soutenir et de chasser tout au moins le couple de la salle. Mais il se heurta dès les premiers rangs à des gens qui ne bougèrent pas et ne le laissèrent pas passer. Au contraire, on l'en empêcha. Des vieillards lui barrèrent la route en étendant le bras, et une main, il n'eut pas le temps de se retourner, le saisit même au col dans le dos. Il cessa de penser au couple. Il lui sembla qu'on cherchait à attenter à sa liberté et que son arrestation devenait vraiment sérieuse. Aussi sauta-t-il d'un bond au pied de l'estrade. Il se trouvait maintenant face à face avec la foule. Avait-il mal jugé les gens? Avait-il trop espéré de son discours? Avait-on dissimulé tant qu'il avait parlé et les masques tombaient-ils maintenant qu'il s'agit d'en venir aux actes? Quelle tête autour de lui! De petits yeux noirs passés dans la pénombre, les joues pendaient comme des joues d'ivrogne, les longues barbes étaient raides et rares, et quand on y portait la main, c'était comme si on griffait le vide avec ses doigts. Mais sous les barbes, et ce fut là la vraie découverte de K, des insignes de diverses tailles et de diverses couleurs brillaient sur les cols de ces gens. Tous semblaient porter ces insignes, tous faisaient partie du même clan, ceux de droite comme ceux de gauche, et, en se retournant brusquement, K vit aussi les mêmes insignes au col du juge d'instruction qui, les mains croisées sur le ventre, regardait tranquillement la salle.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going.
Ce serait mentir par omission que de ne pas diffuser un extrait de The Meaning of Life des Monty Python dans une émission sur Kafka, dans une semaine sur l'absurde, dans une émission sur France Culture et en votre compagnie, Jean-Pierre Morel, puisque c'est de Kafka et du procès que nous parlons aujourd'hui. Revenons un instant sur ce premier interrogatoire, ce chapitre 3 du procès et le désarroi si fort de Joseph K. quand il découvre qu'en fait on ne l'écoute pas et qu'en fait il ne fait qu'amuser la galerie jusqu'au moment où quelqu'un d'autre l'amuse plus que lui. Ce désarroi si fort qu'il, on dirait qu'il l'exprime à peine. C'est très étonnant, on imagine sans peine la douleur infinie de cet homme à l'instant où il s'aperçoit qu'il n'est pas écouté par ceux dont il recherchait l'amitié ou la bienveillance. Jean-Pierre Morel.
Oui, mais d'une certaine façon, Kafka ne laisse pas le temps à la réflexion de son personnage, puisque les événements se précipitent et même se bousculent, et que la salle qui jusque-là semblait appâtée par le dialogue de l'accusé et du juge se retourne vers le fond de la salle où se produit un épisode sexuel extrêmement trivial, extrêmement fort. Et effectivement, dans ce passage, Joseph K. commet une imprudence énorme, parce que c'est le premier interrogatoire, celui qui est décisif, lui rappelle le juge, dans une instruction bien menée, et il commet une imprudence folle, en voulant s'assurer, comme vous le disiez, un succès d'estrade, un succès d'audience, en prenant à partie le tribunal, en renversant les rôles et en se faisant l'accusateur de son accusateur, en disant qu'il a affaire à une grande organisation, c'est une interprétation possible après tout, une grande organisation qui est chargée de comploter contre des innocents.
Oui, mais K commet le péché à ce moment-là de chercher un sens à tout cela.
De chercher un sens, et alors que le...
Et de désigner les organisateurs comme étant ce qu'ils sont.
Très précisément, alors qu'au même moment le texte déstabilise complètement le lecteur et pas seulement K, en faisant qu'on ne sait pas bien à quoi on a affaire. On a affaire à la fois à un tribunal, mais on a affaire, semble-t-il, aussi à une sorte d'assemblée parlementaire ou de réunion politique. Dans son premier manuscrit, Kafka avait écrit que Joseph K. se crut dans une réunion socialiste. La social-démocratie allemande de l'époque, avec des groupes qui s'affrontaient. Et puis, en même temps, on a quelque chose qui est une assemblée communautaire, puisque ce sont, notamment au premier rang, des vieillards à longue barbe avec de longues redingotes noires. On est dans trois possibilités données en même temps, entre lesquelles, évidemment, le récit ne choisit pas. Et donc, on est dans une instabilité complète quant à savoir si l'on a affaire à un rituel judiciaire, à une réunion politique ou à une réunion communautaire ou rituelle.
L'un des torts de Carr, hein, vous l'avez dit, c'était de se plaindre de ses accusateurs, de les délégitimer, en tout cas d'adopter la stratégie de celui qui conteste finalement la légitimité du tribunal devant lequel il comparaît. Joseph Carr commet une autre erreur. Encore que ce sont vraiment des erreurs, puisqu'après tout, l'issue n'est pas douteuse dans le procès. L'autre erreur qu'il commet, c'est se débarrasser de son avocat. Or, je voudrais qu'on entende ici, puisqu'on arrive au terme, ou presque, hein, de cette émission à votre compagnie, un autre extrait du film d'Orson Welles, une discussion entre l'avocat en question, donc, et Joseph Carr, c'est-à-dire entre Orson Welles et Anthony Perkins, qui en vient finalement à parler de la folie du monde même.
Je ne prétends pas être un martyr.
Même pas victime de la société?
Non. Pas victime, mais membre de la société.
Vous croyez pouvoir persuader la Cour que vous êtes irresponsable en raison de votre aliénation?
Je crois plutôt que c'est la Cour qui essaye de m'en persuader. Ah oui, le voilà le complot. Le vrai complot. Il s'agit de nous faire croire que le monde entier est dément, informe, absurde, chaotique. C'est ça leur but. Alors j'ai perdu mon procès. Et puis après, vous avez perdu aussi. Tout est perdu. Tout. Est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie?
Est-ce que cette sentence condamne l'univers tout entier à la folie? Orson Welles est un génie et pourtant il n'a fait que recopier finalement le texte du procès.
Disons que dans cette scène en particulier, il a fait un montage adroit de certains passages qui sont déconnectés les uns des autres.
Oui, mais
dans
qui
le
dit
texte.
Bien quand même l'enjeu du livre. Il qui fait dit, lui-même un travail d'interprète. Hein.
Qui dit l'enjeu, mais qui d'une certaine façon le surligne, le l'impose peut-être un peu trop.
Alors l'impose un peu trop, au terme de toutes ces péripéties, Joseph Carr, et là c'est une question que je suis heureux de vous poser Jean-Pierre Morel, puisque c'est une question que je me pose depuis que j'ai lu le procès, l'issue du procès, qui ne fait aucun doute bizarrement, alors qu'elle est informulée tout au long du livre, c'est la mort de Joseph Carr. Il ne peut pas ne pas mourir, et on a dès le début le sentiment que cet homme-là ne peut pas non seulement échapper évidemment à la sentence, mais que cette sentence ne peut pas être autre chose qu'une peine de mort et qu'une exécution barbare ou sauvage. Il est tué, dit-il, comme un chien par deux hommes. Et avant d'être tué, bizarrement, ça se passe sans affectation. Hein. Il ne proteste pas contre cette sentence. Alors, comment expliquer à la fois cette façon qu'il a de se laisser faire, de se laisser porter, et en même temps cette ultime expression, Jean-Pierre Morel, comme un chien?
Je me retrancherai, si vous voulez bien, derrière une réponse qu'avait faite à la même question Primo Levi, quand il avait traduit le procès de Kafka en 82-83. Il a fait plusieurs textes à ce sujet. Il dit exactement, pour moi, rescapé d'Auschwitz, cette fin m'a coupé le souffle. Je n'aurais jamais été capable de l'imaginer. Et il se pose la question de c'était comme si la honte devait lui survivre, une phrase qui a été éternellement glosée. Et il dit que c'est sans doute, d'une part, la honte, au dernier moment de Carr, de n'avoir pas suffisamment tenu tête au tribunal, d'avoir gâché une partie de son temps à des relations frivoles, en particulier avec les femmes, puisque à trois ou quatre reprises, il noue des liaisons ou des amorces de liaisons avec un certain nombre de personnages.
On aurait pu parler du désir dans le procès.
Qui le distrait, bien sûr, de son procès. Et puis, dit Primo Levi, quelque chose que je comprends bien, c'est tout bonnement la honte d'être humain.
Karma Police de Radiohead pour terminer cette émission en votre compagnie, Jean-Pierre Morel. On aurait pu appeler ça Kafka Police. Merci d'être venu au nouveau chemin de la connaissance. Avec vous s'achève cette semaine sur l'absurde. Jean-Pierre Morel, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Le procès de Franz Kafka, essai et dossier dans la collection Foliothèque, un livre extrêmement utile, 1000 indications bibliographiques, 1000 documents, une collection formidable, un très bon livre. Et puis Le procès lui-même, évidemment, avec la préface de Claude David dans l'édition Folio. Un regret dans cette émission, l'occasion ne s'est pas présentée de diffuser un extrait de Cochon d'Inde, l'excellente pièce de Sébastien Thierry avec Patrick Chenet et Josiane Stoleru notamment, qui est à l'affiche en ce moment au théâtre Héberto à Paris jusqu'au 28 juin 2009 et qui, je dois dire, d'une certaine façon est d'une veine kafkaïenne. Allez-y et vous verrez. Changement de décor. La semaine prochaine, dans les nouveaux chemins de la connaissance, nous parlerons des stoïciens. Et lundi, dans le cadre donc de cette semaine sur le stoïcisme, je recevrai Frédéric Ildefonse, qui a notamment publié un ouvrage de synthèse sur les stoïciens, paru aux Belles Lettres. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, à la réalisation, Christine Digère, assistante, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa. France Culture, il est 17h50, après Joseph K. Albert J.
J'ai évoqué hier le changement profond de l'attitude de ceux qui nous dirigent au sujet de l'arsenal nucléaire. Ceux qui prétendaient qu'il fallait le supprimer le plus rapidement possible étaient qualifiés de doux utopistes. Il se trouve que maintenant, les voix les plus autorisées rejoignent ce camp. Il s'agit de la prise de position de l'ancien président Giscard d'Estaing à propos des armes nucléaires. Lui qui a eu la responsabilité de décider de leur emploi explique dans ses mémoires qu'il a imaginé dans quelles circonstances il aurait pu passer à l'acte. Il a évoqué les divers cas de figure et il aboutit à une conclusion qui est totalement dépourvue d'ambiguïté. Sa réponse est, je cite, « Quoi qu'il arrive, je ne prendrai jamais l'initiative d'un geste qui conduirait à l'anéantissement de la France ». Ce quoi qu'il arrive suffit à anéantir toutes les subtilités de la dissuasion décrites par les théoriciens de la polémologie, c'est-à-dire de l'art de la guerre. Les spécialistes de l'art de la guerre ne parviennent qu'à camoufler la réalité d'un conflit. Celui-ci sera nécessairement un suicide collectif. Ils le décrivent avec des mots abstraits qui se veulent rassurants. Il parle d'armes de non-emploi, de stratégie du faible au fort. Il préconise de préserver une nation en acceptant le risque de la détruire et de les détruire toutes. Face à cette incohérence, il paraît difficile de ne pas adhérer à la réaction de l'ancien président. Le second événement que j'ai annoncé, lui est plus connu, il est récent. Il est que le nouveau président des États-Unis a lui-même préconisait une neutralisation de toutes les armes nucléaires. La proposition de ce recul est justifiée par le statut très particulier de la radioactivité dans notre description de l'univers. Découverte il n'y a guère plus d'un siècle, cette caractéristique de notre cosmos était restée ignorée car elle était enfouie dans la suite des événements qui se sont succédés depuis le mythique Big Bang. Essayant de déchiffrer l'histoire de notre univers, et focalisant notre regard sur le système solaire, nous constatons que celui-ci s'est constitué il y a quelque 5 milliards d'années, par agglutination de poussière. L'énergie dégagée a provoqué le rayonnement du Soleil. Des atomes radioactifs ont été créés, provoquant des réarrangements de leurs éléments constitutifs. Puis ils ont perdu, le temps passant, leur capacité de rayonnement. Ces conditions enchevêtrées ont créé un équilibre qui s'est maintenu jusqu'à présent. Mais agir sur cet équilibre, essayer de voir s'il est stable, risque d'aboutir aux catastrophes les pires. Décidément, nos deux présidents, un ancien et un nouveau, nous montrent cette fois-ci, pour une fois, la voie de la raison.
à retrouver sur Radio France.
Demain sur France Culture à 11h.
Le rendez-vous des politiques.
À l'occasion des élections européennes, Dominique Rousset recevra depuis Budapest un député européen français.
Et une tête de liste hongroise pour débattre sur l'actualité politique en Europe.
À retrouver sur franceculture.com.
Demain sur France Inter.
Panique au Mangin Palace, le ministère psychique.
Le maître de cérémonie, Philippe Collin, enquêtera sur un personnage énigmatique, Pablo Picasso.
Accompagné de sa fine équipe, il suivra les indices laissés par l'artiste, au-delà des apparences.
À suivre, dès 11h02.
En savoir plus,
franceinter.com.
Et demain sur